Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque samedi depuis la création de ce magazine en 1996. Dites-nous d'ailleurs, depuis quand vous l'écoutez ? Nous avons reçu déjà pas mal de réponses, j'en parlerai dans les messages tout à l'heure. Nous allons revivre 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et le commentaire de notre invité, notre ami Yann Mince, journaliste spécialiste des questions internationales. Avant d'écouter Yann, commençons par une petite image sonore. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, annonçant le résultat du vote du Congrès réuni lundi à Versailles afin d'inscrire la liberté de l'IVG dans la Constitution.
Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Pour l'adoption, 780. Contre 72.
Et nous reviendrons tout à l'heure sur ce vote. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à ce micro.
Ravi d'y être à nouveau.
Merci d'être là. Alors je sais que vous aimez la Bretagne. Eh bien sachez que demain dans le magazine Idées, nous évoquerons la vie de Germaine Le Goff, une institutrice de Douarnenez, dans le Finistère bien sûr, qui en 1938 a créé au Sénégal la première école normale d'institutrices en Afrique. Elle a en quelque sorte formé des cadres pour les pays africains, ensuite indépendants. Certaines d'entre elles sont devenues ministres ou députées après les indépendances, justement. Idée demain dimanche à 17h10, temps universel, 18h10, heure de Paris. Notre invité sera François-Xavier Frelan, qui vient de lui consacrer une biographie. C'est vrai que vous aimez la Bretagne,
hein ? La moitié de mes ancêtres en vient, et Douarnenez, c'est pas très loin de Plougastel-Daoulas, d'où mon grand-père était originaire.
Alors Yann, nous allons parler de l'actualité, et là, la gravité est au rendez-vous. Hein.
Sur beaucoup de sujets, comme d'habitude, et malheureusement, avec des conflits qui s'éternisent, je pense évidemment à l'Ukraine, je pense évidemment à Gaza, et puis des conflits dont on parle moins, comme celui du Soudan, qui commence à s'éterniser, et dont on voit vraiment pas les issues politiques, parce que ces conflits-là doivent avoir des issues soit militaires en cas de victoire de l'un des deux camps, soit politiques d'une façon ou d'une autre.
Et c'est dans ces cas-là, dans ces contextes-là, qu'on essaie de trouver de bonnes nouvelles, et on a du mal, vraiment, à en trouver.
On a du mal, alors moi j'en ai trouvé une cette semaine en écoutant RFI, qui est à propos du Soudan, justement, le fait que, alors ça peut sembler une toute petite nouvelle, c'est le fait que les forces armées soudanaises ont autorisé les organisations humanitaires, notamment le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, à faire venir de la nourriture à partir du Tchad, au lieu d'être obligé de traverser tout le Soudan depuis Port-Soudan, c'est-à-dire complètement à l'est, jusqu'à l'ouest où se trouve le Darfour. Ça a l'air de rien, mais pour les centaines de milliers, voire les millions de déplacés qui sont dans le Darfour, c'est une nouvelle très importante si elle permet un acheminement rapide, surtout en cette saison, de la nourriture.
Alors partons tout de suite pour Gaza, Yann Mince. La Jordanie a déjà mené plus de 16 opérations de largage d'aide humanitaire, aussi l'aide humanitaire à Gaza cette fois, depuis le 7 octobre dernier, dont une menée par un appareil français. Alors face aux difficultés d'acheminement par la route, plusieurs pays ont mené de telles opérations, dont les États-Unis, principal allié d'Israël. Reportage de Mohamed Erami, notre correspondant à Amman.
C'est sur la base militaire jordanienne Abdallah II de Malqa, à 30 km d'Amman, que les opérations de largage humanitaire se poursuivent à destination des populations de la bande de Gaza. En plus de 3 avions militaires jordaniens, il y avait 3 avions américains, un avion égyptien et un avion français. C'est la plus grosse opération de largage depuis le début. Avant le décollage, on a pu apercevoir des militaires jordaniens qui écrivaient des mots sur les colis alimentaires préparés par les enfants, des soldats jordaniens, à destination des enfants de Gaza. Ces mots ont été scotchés sur les colis d'aide humanitaire. Un message disait par exemple « Nous sommes avec vous ». Dans les colis, il y avait du riz, mais aussi de la farine et des pâtes, et des plats typiques palestiniens comme le megloubé. Durant le vol, qui a duré 2 heures, le pilote s'est dirigé vers les côtes de Tel Aviv dans un premier temps, avant de longer la mer Méditerranée et prendre plein nord direction Gaza. Le largage a duré quelques instants. Globalement, on a senti des militaires jordaniens fiers de leur mission, mais en même temps très fatigués. Certains nous confiaient qu'ils en étaient à plus de leur 20e largage. Les opérations doivent se poursuivre encore demain et tous les jours jusqu'à qu'une solution pour un cessez-le-feu soit annoncée, a expliqué un haut responsable de l'armée jordanienne.
Avec le démantèlement progressif du Hamas jusque-là au pouvoir dans la bande de Gaza, le territoire palestinien connaît un effondrement de l'ordre. Il n'y a plus de gouvernement et donc plus d'autorité. Des gangs voient même le jour et profitent de la détresse d'une population démunie. Témoignage à Gaza recueilli depuis Jérusalem par Sami Brolifa.
L'aide humanitaire entre au compte-gouttes dans la bande de Gaza. Le territoire est bouclé par Israël qui limite drastiquement le passage des convois chargés de nourriture et de médicaments. Mais une fois sur place, cette aide profite très peu à la population, regrette Randa.
Il y a une véritable mafia qui met la main sur quasiment toute l'aide. Et finalement, il ne reste rien pour nous. Et c'est la même situation dans le nord, dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza.
L'aide est revendue à la population gazaoui à des prix exorbitants. Avant la guerre, un sac de farine coûtait une dizaine de dollars. Il dépasse désormais les 200 dollars. Parvenir à nourrir les siens quotidiennement relève de l'exploit, affirme Nader, père de 3 enfants.
On n'a pas le choix. Pour manger, on doit s'endetter. 150 jours de guerre et la situation ne fait qu'empirer. C'est une catastrophe.
Dans le nord de la bande de Gaza, l'anarchie est telle que des pillages de maisons se multiplient. Face à cette criminalité exceptionnelle engendrée par la guerre, le programme alimentaire mondial a annoncé cesser ses livraisons de nourriture dans le nord de l'enclave il y a déjà 2 semaines.
Une situation à suivre dans nos journaux suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mins. Quel est votre regard sur l'évolution de ce conflit à Gaza? Je rappelle qu'on en est à plus de 30 000 victimes selon le Hamas aujourd'hui.
Quand les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre ont eu lieu, immédiatement, Netanyahou, le premier ministre israélien, a dit qu'il voulait éradiquer, détruire le Hamas. Et en même temps, le Hamas avait pris des otages israéliens, dont il détient encore en grande partie. Et donc, on a donc 2 buts de guerre qui sont absolument incompatibles. Détruire le Hamas, d'abord, je pense que c'est impossible parce qu'on ne détruit pas un mouvement de guérilla. Alors, on a beau le qualifier de terroriste, ça reste un mouvement de guérilla. Ce n'est pas une armée conventionnelle qui affronte une autre armée conventionnelle. Là, l'armée israélienne affronte un ennemi invisible, insaisissable. On voit bien d'ailleurs que cette offensive, en dépit de tous les moyens militaires, elle piétine. Pourquoi elle piétine? Parce que ce n'est pas un combat de tranchées. On n'est pas en Ukraine, on n'est pas à l'est de l'Ukraine. On est face à une armée conventionnelle, face à des gens qui esquivent le combat, comme le font tous les mouvements de guérilla, comme le font par exemple un certain nombre de mouvements djihadistes en Afrique de l'Ouest face à des armées conventionnelles. Donc je pense que c'est impossible, avec une armée conventionnelle, de venir à bout d'un mouvement de guérilla, sauf lorsque la population se retourne contre le mouvement de guérilla. Mais alors, en l'occurrence, les Palestiniens ne se retournent pas contre le Hamas. On peut l'expliquer probablement pourquoi. Il y a des tas de raisons possibles. Donc je crois que ce n'est pas possible, d'une part, de détruire le Hamas, et je crois que ce n'est pas possible même d'essayer de détruire le Hamas en libérant les otages. Et on sent bien que dans l'opinion publique israélienne, il y a aujourd'hui un clivage entre ceux qui disent « il faut détruire le Hamas », sous-entendu, certains le disent presque ouvertement, quitte à sacrifier les otages israéliens, les otages juifs pris, pas seulement juifs d'ailleurs, pris par le Hamas le 7 octobre, ou alors il faut négocier avec le Hamas quelque chose pour pouvoir libérer les otages, quitte à ne pas détruire complètement le Hamas. Et cette ambiguïté, elle est là depuis le début et elle se confirme au fur et à mesure de l'offensive.
Et en attendant, Yann, il faut nourrir une population démunie.
Il faut nourrir une population avec des autorités israéliennes qui exercent un contrôle extrêmement sévère sur tout ce qui rentre dans le territoire. C'est ce qui explique la difficulté d'acheminement de l'aide. Il y a des questions logistiques, mais même au sud de Gaza, côté égyptien, il y a des tas de camions qui attendent. Mais la façon dont les militaires israéliens font ce qu'on appelle le screening des camions, c'est-à-dire qu'ils regardent tout ce qu'il y a dedans. Et je lisais hier un rapport fait par une organisation américaine, une ONG qui s'appelle Refugees International, qui expliquait que, d'après des agents de l'ONU qu'ils ont interviewés, lorsqu'il y a un seul élément dans un camion qui est considéré comme non acceptable par les autorités israéliennes, c'est tout le camion qui est renvoyé. Or, pour les autorités israéliennes, tout ce qui est d'usage potentiellement dual, c'est-à-dire qui peut être utilisé à des fins militaires, y compris des piquets de tente, c'est refusé parce que c'est potentiellement être utilisé pour la guerre. Donc effectivement, ces conditions-là, l'aide ne rentre pas.
Alors Yann, le patron de l'UNRWA a dénoncé devant l'Assemblée générale les attaques répétées de la part d'Israël pour décrédibiliser, selon lui, son agence qui gère les réfugiés palestiniens depuis l'origine, depuis 1949-48. Israël, elle, a accusé les Nations Unies d'employer des centaines de terroristes. Et là, c'est un problème délicat pour les Palestiniens, ce conflit au sein de...
Il est évident que...
Entre Israël et l'ONU, en quelque sorte.
Tout à fait. Alors, Israël a de toute façon depuis longtemps une attitude très méfiante, sinon hostile, vis-à-vis de l'ONU. Et particulièrement vis-à-vis de l'UNRWA. Pourquoi ? Parce que la grande majorité, notamment sur place, pas forcément au siège de l'UNRWA, mais la grande majorité sur place des employés de l'UNRWA sont des Palestiniens. Donc des gens qui se sentent proches de la population palestinienne. Proche de la population palestinienne, ça veut dire pour certains proches de l'OLP, pour d'autres probablement proches du Hamas, pour d'autres peut-être même membres du Hamas. Mais moi, je n'ai pas d'éléments pour dire ce que disent les autorités israéliennes ou pour l'infirmer ou le confirmer, le nombre d'employés palestiniens de l'UNRWA qui seraient des membres du Hamas ou pilotés par... Je ne sais pas. Probablement, il y en a. Est-ce que c'est une raison pour discréditer toute une agence qui fait un travail très important, notamment le milieu éducatif? Et dans le domaine de la santé aussi, je ne crois pas.
On parlera tout à l'heure de Joe Biden, mais il faut signaler que la position américaine devient difficile. Ils ont décidé, les Américains, de construire un port artificiel à Gaza, sur la côte. De plus en plus d'électeurs américains critiquent Joe Biden pour son soutien à Israël.
Surtout à la gauche du Parti démocrate, et notamment dans la jeunesse américaine, et notamment singulièrement dans la jeunesse universitaire, où il y a des gens très militants. Alors, certains, parce que ils sont d'origine arabe et ils ont une sympathie, j'allais dire, presque naturelle pour les Palestiniens. On l'a vu dans certains États qui comptaient pour les primaires, comme le Michigan, où il y a une population d'origine arabe relativement importante. Et puis d'autres, simplement parce qu'ils sont révulsés par le comportement israélien. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils approuvent les massacres du Hamas. Et c'est un peu pénible. Il faut à chaque fois qu'on critique Israël, qu'on fasse un préalable pour dire que les massacres du Hamas sont infaits. Évidemment, ils sont atroces et insupportables. Mais ça n'empêche pas qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, Israël agit de façon non proportionnelle à l'attaque que l'État hébreu a subie.
Sept jours dans le monde.
Emmanuel Macron était à Prague mardi pour y rencontrer son homologue tchèque à l'origine d'une proposition visant à acheter des munitions non européennes pour l'Ukraine. Initiative qu'Emmanuel Macron a annoncé soutenir. Et lors d'un discours devant la communauté française, le chef de l'État a appelé les alliés de l'Ukraine à, dixit, ne pas être lâches face à une Russie devenue inarrêtable, dit-il, semblant assumer les propos controversés sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales dans ce pays en guerre. À Prague, Charlotte Urien. Tomaka.
Dans son discours à la communauté française, Emmanuel Macron a donné le ton.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique.
La guerre en Ukraine s'est finalement imposée comme le sujet central de ce déplacement, au point d'éclipser la signature d'un contrat de plusieurs milliards de dollars avec EDF, avec à la clé l'installation de 4 réacteurs nucléaires par l'entreprise française. Plus tard dans la journée, lors d'une conférence de presse avec son homologue tchèque Petr Pavel, Emmanuel Macron est revenu sur ses propos décriés sur l'envoi de troupes en Ukraine, semblant les assumer.
C'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe.
Et le chef de l'État a précisé sa pensée.
J'ai dit quel était le cadre. Je n'ai pas dit qu'il y avait de consensus encore, mais je considère que c'était important de le faire parce que nous devons tous être conscients.
De son côté, si Petr Pavel a apporté son soutien au chef de l'État en se disant, je cite, « ouvert à tout un nombre de possibilités », il n'a pas voulu s'engager sur l'idée d'envoyer à terme des troupes au sol en Ukraine.
A noter aussi cette semaine que la Commission européenne a proposé de construire une stratégie industrielle de défense pour sortir de 30 ans de coupes budgétaires. Décision prise à Bruxelles où l'on dit que l'Europe de la défense est en marche. Yann Mince, quel est votre regard sur la situation en Ukraine? Je ne parle pas d'Emmanuel Macron, dont nous parlerons plus tard, sur l'évolution du conflit en Ukraine avec une escalade.
Oui, disons que On a eu beaucoup d'attentes l'an dernier sur la fameuse contre-offensive ukrainienne et on a fait porter sur les pauvres Ukrainiens, les militaires ukrainiens, toute la responsabilité de changer à eux tout seuls l'évolution du conflit. Or, les militaires ukrainiens disent, si vous voulez vraiment nous aider, donnez-nous toutes les munitions qu'on vous demande, et y compris celles qui pourraient nous servir contre la Russie, mais dont on a besoin. Or, on voit depuis le début du conflit qu'à chaque fois que les Ukrainiens font une demande, elle n'est vraiment accordée, si je puis dire, par les pays occidentaux qu'avec plusieurs mois de retard, parce que la peur, c'est toujours que les Ukrainiens portent le conflit sur le sol russe et que ça déclenche une catastrophe. Donc, cette fameuse contre-offensive ukrainienne, elle n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ceux qui sont plutôt un petit peu à l'offensive, ce sont les Russes. Mais on parle de quelques kilomètres à chaque fois. On n'est pas sur quelque chose de gigantesque. Ce que les Ukrainiens n'ont pas réussi à faire, c'est couper les lignes d'approvisionnement des Russes en séparant la Crimée des autres forces russes. Ça, ça aurait été un vrai game changer, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire quelque chose qui aurait changé la donne. Le rapport de force. On n'en est pas là. On est sur un front qui n'est pas gelé, mais qui bouge vraiment très peu. La question, c'est de savoir si les Russes vont avoir la détermination et les moyens, et notamment les moyens humains, de lancer une offensive massive dans les mois qui viennent. Et est-ce que les Ukrainiens pourront résister ou pas? Sinon, on est dans un conflit qui se gèle sans qu'on le dise vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien sur le front, mais il n'y a pas de mouvement très important, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Et nous reviendrons tout à l'heure sur la déclaration d'Emmanuel Macron quant à l'Ukraine. Mais parlons tout de suite, Yann, d'Haïti. Le chef de gang, Jimmy Cherizier, menace en effet d'une guerre civile sanglante. Si le Premier ministre, Ariel Henry, reste au pouvoir, depuis des mois, on le sait, les gangs tuent, pillent, violent, kidnappent et contrôlent la plus grande partie de la capitale. Un chef de gang a menacé le pays d'une guerre civile même d'un génocide. La situation donc continue de se détériorer. Les tirs fusent dans la capitale, Port-au-Prince, où les habitants ne sortent plus de chez eux au risque de recevoir une balle perdue. L'état d'urgence a été prolongé à Port-au-Prince. Marie-André Bellange.
Rue barricadée, déserte, tirs par moment, certaines banques et supermarchés n'ont ouvert leurs portes que pour quelques heures. Les écoles sont restées fermées. Dans la capitale haïtienne, il n'y a pas que les tirs qui inquiètent les résidents, mais aussi le manque d'eau, la rareté et le coût de certains produits sur le marché. C'est dans ce contexte qu'intervient la prolongation de cet état d'urgence. Mais pour l'instant, cette mesure n'a pas empêché les bandes armées de poursuivre leurs exactions contre des bâtiments administratifs. Selon le syndicat national des policiers haïtiens, 10 bâtiments de la police ont déjà été détruits en une semaine. Face à l'escalade de la violence des gangs, l'opérateur du port de Port-au-Prince a annoncé la suspension de ses activités. Cet état d'urgence a été décrété alors que le chef du gouvernement, Ariel Henry, est bloqué à l'étranger et ne sait pas quand il pourra rentrer au pays. Pendant ce temps, toutes les manifestations sur la voie publique sont interdites de jour comme de nuit dans le département de l'Ouest, qui comprend Port-au-Prince. Les forces de l'ordre ont reçu l'ordre d'user de tous les moyens légaux à leur disposition pour faire respecter le couvre-feu.
RFI, suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre confrère Yann Mince. Haïti, c'est de Caraïbes dans Silla.
Oui, depuis que je m'intéresse à ce pays, je suis un peu plus de 20 ans, je pense à peu près, j'ai l'impression que ça ne cesse de se dégrader. Ce qui est nouveau depuis, on pourrait dire, un an ou deux, c'est que jusque-là, on savait qu'une partie de la classe politique avait des alliés dans les milieux criminels, mafieux, etc. Là, on a l'impression que le rapport de force est en partie inversé. On a l'impression que ceux qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui, en tout cas médiatiquement, et puis j'allais dire militairement, si on peut employer ce terme-là, ce sont les gangs. Ce qu'on ne sait pas, c'est avec quels hommes politiques ils sont alliés. Est-ce qu'ils vont finir par mettre des hommes politiques en avant tout en restant derrière, dans la tradition haïtienne, si je puis dire, hélas? Ou bien est-ce qu'ils vont vouloir eux-mêmes prendre le pouvoir? Alors Jimmy Cherizier, dont parlait Marie-André Bellange, se présente volontiers en défenseur du peuple, en défenseur de la démocratie, en espèce de Robin des Bois. Je ne suis pas sûr que les Haïtiens soient dupes au vu des exactions de son clan, le G9. Et ce qui est alors vraiment... d'une ironie totale, c'est que les deux principaux gangs qui passaient leur temps à s'entretuer ces derniers mois ont fait aujourd'hui une coalition qui s'appelle Vivre Ensemble contre Ariel Henry, donc le Premier ministre qui est coincé à l'étranger. Donc Vivre Ensemble, quand on est des tueurs patentés, violeurs, tout ce qu'on veut, ça, c'est une espèce d'ironie horrible, noir, mais c'est malheureusement la réalité d'Haïti aujourd'hui.
Comment sortir de cette situation, Yann Mince? On se souvient qu'il y a quelques années, il y avait une mission des Nations Unies dans ce pays. Ça s'était mal terminé, d'ailleurs. Faut-il recommencer? Il y a un projet, d'ailleurs, l'intervention de l'ONU avec les Kenyans.
Il y avait une mission des Nations Unies, notamment avec une forte participation du Brésil, dont les résultats n'avaient pas été toujours aussi mauvais que ça. Mais la question, c'est que ce sont des problèmes structurels. Ce n'est pas une question de maintien de l'ordre. Évidemment, le maintien de l'ordre, c'est important. Mais si on ne résout pas les problèmes structurels, et notamment le lien entre politique et crime, et qu'on n'assainit pas la classe politique haïtienne. Alors, la classe politique haïtienne, c'est une des plus, comment dire, des plus coupées de la population et des plus égoïstes que j'ai vues, et que j'ai observées en tout cas. Et ça, ça ne se résout pas, ça ne change pas. On a une classe politique qui est pourrie, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui est en plus plus ou moins alliée à des bandes armées. Et ça ne peut pas le changer. Une opération des Nations Unies ne peut pas le changer. Bien entendu, on peut peut-être envoyer des soldats kényans, béninois, qui sont ceux qui se sont proposés pour la prochaine mission, pour essayer de faire régner l'ordre, mais ils ne pourront pas rester éternellement. Ils ne pourront pas rebâtir un État haïtien. C'est rebâtir un État, des institutions et une démocratie haïtienne qu'il faut faire. Et ça, je suis désolé de le dire, ce sont seuls les Haïtiens qui peuvent le faire.
Sept jours dans le monde.
Et partons pour la Chine. Maintenant, Yan, les principaux chefs d'orchestre de la politique économique chinoise ont affiché mercredi leur confiance quant à une reprise du géant asiatique cette année, en dépit de vents contraires qui continuent d'entraver sa croissance. Des milliers de députés étaient réunis cette semaine à Pékin, donc, pour la session annuelle du Parlement. C'est traditionnellement l'occasion pour le gouvernement de présenter les grandes lignes de sa politique sociale et économique, mais aussi diplomatique, avec le chef de la diplomatie chinoise, Wang Li, présent à Pékin, Stéphane Lagarde.
En 2h21 questions envoyées à l'avance, Wang Yi a balayé l'ensemble des défis auxquels doit répondre la deuxième puissance mondiale sous l'angle de la nouvelle diplomatie chinoise de l'égalité et de l'ordre. La deuxième question a été attribuée à la télévision russe, l'occasion de critiquer les partisans de l'hégémonisme et de vanter l'alliance Pékin-Moscou, non pas comme un nouvel ordre international, mais comme un nouveau modèle de relation entre puissances. Wang Yi.
En tant que grande puissance et que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine et la Russie ont construit un nouveau modèle de relations entre grandes puissances, complètement différent de l'ancienne guerre froide.
Un modèle qui s'oppose à la perception erronée de la Chine par les États-Unis, dit encore le conseiller d'État chinois. La troisième question porte sur la relation sino-américaine, qui a fait des progrès depuis la rencontre des présidents chinois et américains à San Francisco en novembre dernier, dit encore Wang Yi, pour qu'il reste du chemin à faire.
Si les États-Unis s'angoissent à chaque fois qu'est mentionnée la Chine, où est la confiance d'une grande puissance ? Si les États-Unis se contentent de prospérer sans permettre aux autres pays de se développer, où est la justice internationale ?
Dans un monde agité, la Chine est une force de paix, de stabilité, de justice, reprend le plus haut responsable de la diplomatie chinoise devant une salle de presse de nouveau remplie par des journalistes invités du Sud global, dont la télévision égyptienne, qui dans une longue question salue la position juste de la Chine dans son soutien aux Palestiniens.
De l'Asie à l'Amérique maintenant, avec les élections primaires et le Super Tuesday, le Super Mardi, remporté haut la main par Donald Trump et Joe Biden également du côté démocrate, puis le rituel de la vie politique américaine, le discours sur l'état de l'Union, particulièrement suivi, surtout en cette année d'élection présidentielle. Devant le Congrès, Joe Biden a balayé tous les sujets du moment, mais en revenant sans cesse sur le même, son adversaire en novembre, à Washington, Guillaume Nodin.
Cela s'appelle le discours sur l'état de l'Union, mais en année électorale, c'est surtout un discours de campagne. Sujets internationaux, Ukraine, Proche-Orient, sujets nationaux, économie, avortement, violence armée et bien sûr sécurisation de la frontière sud, tout y passe. À chaque fois, Joe Biden défend son bilan et avance de nouvelles propositions pour mobiliser son électorat. Surtout, il met en évidence ce qui le différencie de Donald Trump, son adversaire républicain qu'il ne nomme jamais, mais qu'il cible souvent.
My lifetime has taught me to embrace.
Ma vie m'a appris à chérir la liberté et la démocratie, un avenir fondé sur les valeurs fondamentales qui ont défini l'Amérique. L'honnêteté, la décence, la dignité, l'égalité. Respecter chacun, donner sa chance à chacun, ne pas donner de refuge à la haine. D'autres personnes de mon âge voient les choses différemment. Une histoire américaine faite de ressentiments, de vengeance et de châtiments. Ce n'est pas moi.
Et Joe Biden de souligner sa foi en l'avenir et en l'état de son pays.
Ce soir, nous pouvons probablement dire que l'état de notre union est fort et se renforce.
C'est sans doute un résultat de l'optimisme revendiqué par Joe Biden, car les applaudissements des siens et les interpellations de ses adversaires font surtout entendre la fracturation politique du pays.
Yann, écoutons également un extrait des propos du président américain sur l'Ukraine, cette fois.
L'Ukraine peut arrêter Poutine si nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine et lui fournissons les armes dont elle a besoin pour se défendre. C'est tout ce que l'Ukraine demande. Il ne demande pas de soldats américains. En fait, il n'y a plus de soldats américains en Ukraine. Et je suis déterminé à ce que ça continue ainsi. Mais en ce moment, l'aide à l'Ukraine est bloquée par ceux qui veulent abandonner notre leadership dans le monde. Il n'y a pas si longtemps, un président républicain nommé Ronald Reagan s'exclamait « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur !» Aujourd'hui, mon prédécesseur, un ancien président républicain, dit à Poutine, je cite « Faites bien ce que vous voulez !» C'est une citation. Un ancien président des États-Unis a dit ça, s'inclinant devant un chef russe. Je pense que c'est scandaleux, c'est dangereux et c'est inacceptable.
Joe Biden, qui était en grande forme à l'occasion de ce discours.
Je pense qu'il avait intérêt à être en forme parce qu'il y a un débat aux États-Unis sur le fait de savoir s'il n'est pas trop âgé pour la fonction, s'il a pas des pertes de mémoire, s'il a pas. Alors, je crois que c'est un gaffeur, mais depuis de longues dates. Donc, on va guetter le moindre lapsus de cet homme pendant les mois qui viennent jusqu'à l'élection de novembre, c'est sûr.
Mais il a été particulièrement ferme sur l'Ukraine. Hein. Il demeure ferme sur l'Ukraine.
Il faut espérer que ce ne sera pas seulement lui qui sera ferme sur l'Ukraine, parce que ce que Vladimir Poutine espère le plus, c'est une élection de Donald Trump, parce qu'il espère que si Donald Trump est élu, l'aide américaine à l'Ukraine va s'arrêter, ou en tout cas se réduire considérablement. D'où d'ailleurs la surenchère d'un certain nombre de dirigeants européens, ou en tout cas le discours très ferme qui est de dire « même si les Américains défaillent demain, nous, on continuera à aider l'Ukraine ». Mais je pense qu'il faut faire attention aux formes que prennent les engagements qu'on prend vis-à-vis de l'Ukraine. Il faut être capable de tenir ce qu'on promet. Or, ce n'est pas toujours évident, et notamment en matière de défense, ce n'est pas du tout évident que les Européens auront les moyens financiers et techniques de se substituer aux États-Unis si Trump décide de réduire, voire de supprimer l'aide américaine à l'Ukraine.
Je n'oublie pas, vous n'oubliez pas non plus, Yann, qu'il y a un plébiscite à Moscou ce mois-ci. La question est de savoir quel sera le taux de participation.
Oui, et surtout, quel sera le taux réel de participation, parce que j'ai une confiance moyenne dans la commission électorale russe pour donner des résultats conformes à la réalité. Mais je pense qu'il y a quand même assez, encore pour l'instant, de correspondants étrangers en Russie pour aller voir s'il y a de l'affluence ou pas dans les bureaux de vote. Et même si ça ne donne pas un chiffre exact, ça donne à peu près quand même un ordre de grandeur, le fait de savoir si les Russes vont aller voter ou pas, et pour qui, malheureusement, ça, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Tous les candidats qui pouvaient être un peu égratignés Poutine ont été écartés, donc il n'y a pas beaucoup de risques pour lui de ce côté-là.
L'épouse d'Alexei Navalny, dont on va parler dans un instant, Yann, si vous le voulez bien, demande aux Russes d'aller voter, d'aller dans les bureaux de vote à midi, le jour du vote, et de s'abstenir ou de voter contre les candidats, voire même pour voter Alexei Navalny.
C'est plutôt malin comme tactique, parce que ça veut dire qu'il y aura une visibilité des supporters Navalny et pas seulement une invisibilité s'ils ne vont pas voter. Pourquoi pas, effectivement.
Comment avez-vous vécu cette mort d'Alexei Navalny et cette réaction du Kremlin qui a laissé faire les obsèques, mais des obsèques sous contrôle et qui auront peut-être des répercussions d'ailleurs sur ceux qui ont participé.
Ce qui m'a frappé surtout, bon, j'étais évidemment comme tout le monde, je pense, surpris par la mort de Navalny. J'ai évidemment aucun élément pour dire s'il a été assassiné ou s'il est mort brutalement de maladie des conséquences des mauvais traitements qu'il avait subis. Si je risque une hypothèse, je ne serais pas complètement étonné qu'il était de nouveau empoisonné, comme il avait été une plusieurs fois auquel il avait survécu, mais c'est purement de l'ordre de l'hypothèse. Après, moi, ce qui m'a beaucoup ce qui m'a paru suspect, disons plutôt, c'est le temps que les autorités ont mis à remettre le cadavre à la famille, et notamment à la mère d'Alexei Navalny, pour qu'il puisse être enterré. C'est plutôt ce délai-là, évidemment, qui est extrêmement suspect, mais comme toujours, avec beaucoup de juridisme, les autorités russes abritent derrière le droit en disant « mais il fallait qu'on fasse l'enquête, il fallait qu'on fasse les choses bien, etc. » Et comme elles sont souveraines, on est obligé de faire avec.
À noter aussi le courage de ceux qui ont participé aux funérailles.
Bien sûr, j'étais très impressionné.
Et qui continuent à aller fleurir la tombe.
Très impressionné par cette foule, parce que non seulement il y a des gens qui ont été arrêtés, mais on le sait, tout le monde dans ce genre de pays est filmé. Et donc maintenant, grâce aux joies de l'intelligence artificielle, si c'était nécessaire, tout le monde peut être reconnu. Je suppose qu'une bonne partie de de toute façon des gens qui étaient là étaient fichés, mais je suis certain qu'il y en a aussi d'autres qui jusque-là ne faisaient pas participer à beaucoup de manifestations et qui sur ce sujet-là sont sortis. Et effectivement, il faut souligner leur courage.
Une semaine d'actualité.
Faisons un saut en France, Yann Mince, et revenons sur le vote, donc lundi au Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, de l'inscription dans la Constitution de la liberté de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, Aurélien Devernois.
De l'émotion et de la gravité à l'occasion de l'adoption de l'inscription de l'IVG dans le texte fondamental de la France, quasiment 50 ans après l'autorisation de cette pratique dans le pays, la fameuse loi Veil. Le nom de l'ancienne ministre de la Santé, Simone Veil, qui a de nombreuses fois résonné à Versailles ce lundi, notamment dans le discours du Premier ministre Gabriel Attal.
En garantissant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, nous donnons une deuxième victoire à Simone Veil et à toutes celles qui ont ouvert la voie. Nous adressons surtout un message à toutes les femmes. Votre corps vous appartient et personne n'a le droit d'en disposer à votre place.
Un message surtout envoyé aux femmes privées de ce droit, Mélanie Vogel, sénatrice écologiste.
Mais c'est aussi un message pour le monde entier. Un message aux Américaines, aux Argentines, aux Hongroises, aux Polonaises, aux Allemandes, aux Iraniennes, aux Marocaines, à toutes celles qui dans le monde vivent toujours ou de nouveau la peur de la prison et le risque de la mort.
Une quasi-unanimité donc à peine troublée par des huées lors du discours de la députée Rassemblement National Hélène Laporte, qui en a profité pour s'attaquer aux insoumis à l'origine du texte, mais accusés d'un deux poids deux mesures en raison de leur complaisance supposée avec l'islamisme.
Yann Mince, jeudi, le président de la République a reçu le chef des partis politiques de l'opposition à l'Élysée en format dit de Saint-Denis pour évoquer le soutien français à l'Ukraine. Une semaine après ses propos sur l'envoi de troupes, donc, lors de cette rencontre, le chef de l'État a annoncé qu'il n'y avait aucune limite au soutien français à l'Ukraine, d'après Fabien Roussel et Jordan Bardella, Charlotte Urien-Tomaca.
Jusqu'où Emmanuel Macron est-il prêt à aller pour aider l'Ukraine? Après leur réunion à l'Élysée, les oppositions ont tiré à boulets rouges sur le chef de l'État. D'après Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, le président aurait annoncé qu'il n'y a aucune limite.
Le gouvernement et le président de la République dit clairement aux Français que la position de la France a changé. Il n'y a plus de ligne rouge. Il n'y a plus de limite.
Si Emmanuel Macron n'a pas changé de position, ses opposants non plus. Jordan Bardella, président du RN, a fustigé les positions de va-t-en-guerre du chef de l'État.
Le président de la République est prêt à un soutien sans limite, et semble-t-il jusqu'au boutiste, à l'Ukraine. J'ai fait savoir quelle était la position du Rassemblement National, à savoir qu'il fallait soutenir l'Ukraine, mais qu'il fallait faire en sorte que la France n'entre pas elle-même en guerre.
Pour Éric Ciotti, président des Républicains, même son de cloche. Il a redit son opposition totale à l'engagement des troupes au sol, mais s'interroge aussi sur l'utilité de cette réunion. Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, n'a pas non plus été avare de critiques.
Je suis arrivé inquiet et je suis ressorti plus inquiet encore.
Prochaine étape, un débat au Parlement, suivi d'un vote mardi et mercredi prochain sur l'accord bilatéral de sécurité, signé entre Paris et Kiev en février dernier. Un scrutin sur lequel les oppositions laissent planer le doute quant au vote pour ou contre.
RFI, vous écoutez une semaine d'actualité, vous avez raison, suite de cette émission en compagnie de Yann Mince. Alors, parlons d'abord de cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Le président Macron a dit hier qu'il voulait faire inscrire cette l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Quel est votre regard sur cette décision?
D'abord, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué dans la charte européenne parce que la diversité des opinions en Europe est beaucoup plus grande qu'elle n'est, je pense, au sein de la France et notamment de la classe politique française. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le changement d'époque que ça veut dire par rapport au Rassemblement national. Ce que je veux dire, c'est que l'attitude du Rassemblement national, qui a massivement voté pour le texte, est très différente de ce qu'aurait été probablement l'attitude du Front National, j'allais dire vieille époque, oui. celle de Jean-Marie Le Pen. Et on voit bien que Marine Le Pen, qui avait d'ailleurs sur la question du mariage pour tous, avait eu une attitude extrêmement réservée. On voit bien que sur les questions de société, elle veut être, si je puis dire, de son époque et de sa génération. Et de ce point de vue-là, les jeunes membres du Front National, je veux dire jeunes relativement à l'âge de la classe politique française souvent, ils ne veulent absolument pas apparaître comme ringard. Et je pense que cette question de société, contrairement à ce qui aurait été probablement le cas de gens du Front National qui venaient de la droite très catholique, presque vichiste pour un certain nombre d'entre eux, je pense qu'ils veulent absolument apparaître comme de leur époque et leurs priorités ne sont pas là. Leurs priorités sont sur l'immigration, sur la paupérisation d'une partie de la population, sur l'agriculture. Ça, ce n'est pas un sujet pour eux. C'est derrière, j'allais dire. Et du coup, ils ont adopté le texte. Et par ailleurs, ce que ce vote montre, je crois, c'est que Emmanuel Macron, qui ne renonce pas à l'idée de réformer, parce que son obsession, c'est qu'il a été élu pour réformer, il n'a plus la majorité parlementaire pour faire des grandes réformes sociales et économiques. En revanche, sur les questions de bioéthique, il peut essayer. Pourquoi ? Parce que sur les questions de bioéthique, on l'a vu sur l'IVG, et on va le voir sur la fin de vie, où il y a un projet qui arrive, les partis politiques ne donnent pas de consignes de vote strictes. Ce sont des questions qui touchent beaucoup à la conscience, à l'intime, aux convictions personnelles de chaque parlementaire. Ce qui veut dire que là, on peut avoir des majorités transpartisanes, comme ça a été le cas sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
Continuons à parler d'Emmanuel Macron. Comment avez-vous analysé ces déclarations qui ont surpris tout le monde, y compris surtout les dirigeants européens et les membres de l'OTAN, l'envoi éventuel de troupes en Ukraine?
Je ne comprends pas l'intérêt de sortir de l'ambiguïté stratégique. Quand on dit ambiguïté stratégique, ça veut dire qu'on ne dit pas ce qu'on fera, pour que l'ennemi soit obligé de supposer, d'examiner tout un tas de scénarios, etc. Je ne vois pas l'intérêt de sortir. Je ne crois pas que la déclaration d'Emmanuel Macron, d'autant qu'elle a été, sinon contredite, mais enfin très, très relativisée par beaucoup d'autres dirigeants européens, à commencer par Olaf Scholz, je ne crois pas que ça va changer l'attitude de Poutine et sa détermination. Je ne crois pas que Poutine a l'intention d'attaquer la France. Et j'ai le sentiment que dans l'état actuel du conflit, l'opinion française ne serait pas majoritairement favorable à l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Et d'ailleurs, le président Zelensky l'a dit, on n'a rien demandé. On n'a pas demandé de troupes étrangères. Peut-être un jour, ça viendra, mais pour l'instant, on ne l'a pas demandé. Alors, évidemment, on joue un peu sur les mots, parce qu'on dit qu'on ne va pas envoyer... Il n'y a pas de soldats. Biden disait qu'il n'y a pas de soldats américains. Peut-être pas de soldats au sens de troupes d'infanterie, mais il y a probablement des gens des forces spéciales. Il y a des formateurs qui aident les Ukrainiens à servir des matériels qu'on livre, etc. Donc, on est un peu d'ambiguïté, mais on n'est pas dans un engagement massif d'infanterie, troupes seules. Ça, je pense que personne n'en a envie. Du coup, je ne comprends pas l'intérêt de la déclaration de Macron sur un plan, dissuasif par rapport à Poutine. Et je crains qu'une fois de plus, il ait cédé à son péché mignon, qui est de vouloir être disruptif, comme on dit maintenant. Et c'est son côté un peu Sarkozy. Personne n'a le courage de le dire. Si moi, je ne le dis pas, personne ne le dira.
Et certains disent, mauvaise langue sans doute, qu'il veut dramatiser la situation avant les élections européennes.
Oui, mais de ce point de vue-là, il s'est peut-être tiré une balle dans le pied, parce que si effectivement l'opinion publique française est contre, ça ne va pas être un élément clivant. Tous les partis vont avoir beau jeu, enfin une bonne partie des formations de l'opposition, notamment, vont avoir beau jeu de dire, mais nous, c'est ce qu'on dit. Ils ont dit d'ailleurs, en sortant de la réunion type Saint-Denis, comme on dit maintenant, ils ont tous dit, il faut soutenir l'Ukraine, mais pas envoyer des troupes françaises. Et je pense que c'est globalement l'état de l'esprit de l'opinion publique. Donc, si le but, c'était de créer un clivage au moment des européennes, ça va créer peut-être un clivage entre Renaissance et les autres partis, mais et peut-être même au sein de Renaissance, ça va être un peu plus compliqué.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages, merci pour votre fidélité. Dites-nous d'ailleurs depuis quand vous écoutez une semaine d'actualité. Nous avons déjà des réponses, en voici quelques-unes. Je salue par exemple Croco à Abidjan qui nous écoute depuis 1998, depuis 26 ans. Bonjour à Alpha Idri à Conakry qui lui est à l'écoute depuis 28 ans, depuis la création de l'émission en 1996. Un salut à André qui nous écoute lui depuis 2003, 21 ans donc. Je salue également Laurent qui nous suit depuis 2009, il avait alors 14 ans. Sarah qui a commencé à nous écouter en 2005 en Hongrie ou bien encore Junior depuis 2015 à Douala. Enfin, mes salutations à Djibril, à Dakar, fidèle auditeur depuis 2012, à Mokhtar, à Richard Toll, à l'écoute depuis 2013, à Théodore, depuis qu'il écoute RFI depuis 2016, et enfin à Rabé, qui nous suit depuis 2010, depuis donc 14 ans, à N'Djamena. Je ne peux citer tous vos messages aujourd'hui, d'autres viendront samedi prochain.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Et avant de partir pour l'Afrique, une question que je vous pose, Yann Mince, depuis quand écoutez-vous une semaine d'actualité ?
Eh bien, je ne me souviens plus, mais je me souviens effectivement de l'avoir écouté avant d'y participer.
C'est-à-dire depuis une dizaine d'années ?
Depuis une quinzaine d'années, je crois que c'était en 2008 que j'étais invité pour la première fois et je l'écoutais avant. Notamment, je pense qu'il vous deviez recevoir Mireille Dutille.
Mireille Dutille du magazine Le Point, qui est grande spécialiste, notamment du Maroc.
Une invitée régulière, je me souviens.
Nous allons partir pour le Sénégal maintenant, Yann, après un mois de crise politique, le calendrier électoral devient plus clair. Le président Macky Sall a en effet publié les deux décrets, celui sur la durée de la campagne électorale et la date surtout de la présidentielle. Elle aura finalement lieu le 24 mars prochain à Dakar hier. Léa Lisa Vestaroff.
Plus de doute possible, la présidentielle se tiendra dans un peu plus de deux semaines au Sénégal. Hier après-midi, un communiqué du président du Conseil constitutionnel est venu lever la dernière incertitude, car pendant quelques heures, le Sénégal n'avait pas une, mais deux dates pour la présidentielle, l'une annoncée par Macky Sall, l'autre fixée par le Conseil constitutionnel au 31 mars. Au final, c'est bien le 24 mars qui a été retenu. La date respecte les délais constitutionnels. Autre annonce du président hier, celle de la durée de la campagne électorale. Un temps quasi réduit de moitié par rapport à ce qui est prévu par la loi électorale. Le temps d'antenne a lui aussi été fixé. 3 minutes par jour et par candidat. Va de nouveau très vite se poser la question de la libération du candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye, en détention provisoire depuis avril dernier, pour qu'il puisse lui aussi battre campagne.
Yann Mince, les affrontements se sont intensifiés récemment dans le Nord Kivu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23, ce dernier étant soutenu par Kigali. Dans ce contexte, l'appel à l'aide humanitaire se fait plus pressant. Devant la recrudescence des violences, Médecins sans frontières a dû procéder à l'évacuation partielle de ses équipes sur le terrain. L'organisation exhorte toutes les parties impliquées dans le conflit à garantir le respect des installations sanitaires et des opérations médicales. Écoutez ce témoignage et le coup de gueule d'Emmanuel Lampard, représentant de MSF en RDC. Il a été interrogé par Patient Ligodi.
C'est clair que l'afflux des blessés, d'une part, je peux citer Minova, mais aussi la capacité au niveau de Goma, on frôle le débordement. D'autre part, les nouvelles vagues d'afflux des déplacés internes qui s'ajoutent aux innombrables déplacés aux abords de Goma font des sites informels. On craint une nouvelle crise sanitaire d'une ampleur pas connue avant. Deuxième constat, c'est les lignes de défense, les lignes offensives se sont rapprochées et se joue désormais aux abords des camps et au même moment s'intensifie à l'arrière du pays, Minova, Nyanzale, Kibirizi. Quand on revient aux abords et dans les camps, je crois les dernières semaines, moi-même j'ai pu le constater, la présence de plus en plus marquée des hommes armés en uniformes divers et avec cela à la clé une hausse d'incidents, de violences faites à la femme. Et bien évidemment, cela constitue en soi une barrière à l'accès aux soins. Tout cela nous invoque de dire haut du toit, stop, au nom de l'humanité, au nom de la dignité de la vie de ces vulnérables déplacés qui aujourd'hui ne jouent que leur survie.
Terminons ce voyage africain au Soudan. Un cessez-le-feu pour le Ramadan, c'est ce que le patron de l'ONU a réclamé au Conseil de sécurité. Il a appelé les généraux Al-Bouhane et Daglo à faire taire les armes. Le conflit, rappelons-le, a fait des milliers de morts, créé l'un des plus importants déplacements de population de l'histoire, avec 8 millions de Soudanais touchés, et plongé le pays dans une catastrophe humanitaire, puisque la moitié de la population a besoin d'une assistance vitale. À New York, Karine Houghton.
Antonio Guterres a appelé à faire honneur aux valeurs portées par le Ramadan et réclamé aux forces rivales au Soudan un cessez-le-feu pour toute la durée de la fête musulmane, alors que le spectre de la famine plane sur tout le pays. Le patron de l'ONU a redit ses craintes que le conflit soudanais ne déstabilise l'ensemble de la région, du Sahel à la Corne de l'Afrique, en passant par la mer Rouge, et il s'est dit alarmé par les développements qui risquent de fragmenter encore plus profondément le pays, d'exacerber les tensions intra- et intercommunautaires et d'aggraver les violences ethniques. L'ambassadeur soudanais a relayé en direct un message du général Al-Bouhane, mi-figue mi-raisin, qui d'un côté a salué poliment l'appel du secrétaire général, mais de l'autre ne pense pas que ce soit pragmatiquement réalisable compte tenu des affrontements en continu sur le terrain.
Yann, je sais que vous suivez avec attention la situation au Soudan.
Oui, parce que c'est une situation dramatique qui échappe beaucoup au radar des médias, des grands médias mainstream en France.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui.
Alors c'est vrai que c'est très compliqué de couvrir cette situation. C'est compliqué d'aller au Soudan. On peut y aller un peu depuis le Tchad, mais évidemment c'est très compliqué, c'est risqué, c'est logistiquement difficile. Et puis c'est du point de vue de la sécurité, même pour nos confrères, c'est très compliqué. Mais c'est une situation où on a des exactions sans arrêt, où il y a eu des milliers de viols au Darfour, notamment de femmes du groupe Massalit par des miliciens proches des forces de soutien rapide. Donc c'est une situation atroce et avec, comme je disais en début d'émission, des difficultés extrêmes à acheminer l'aide humanitaire. J'espère que l'ouverture de route par le Tchad va permettre d'améliorer un peu la situation.
Vous êtes administrateur de Médecins Sans Frontières. Comment avez-vous réagi en écoutant Emmanuel Lampart, le représentant de MSF?
D'abord, je voudrais adresser un salut amical et de soutien aux équipes de MSF sur place, un peu partout, mais notamment dans le Kivu, parce qu'on en parle régulièrement au conseil d'administration, la situation au Kivu, avec ces déplacés qui vivent dans des conditions atroces. On parlait tout à l'heure des violences sexuelles contre les femmes. Il y a aussi des femmes qui sont malheureusement contraintes à la prostitution juste pour nourrir leurs enfants au sein des camps, même sans présence forcément de groupes armés autour. Et une aide humanitaire qui arrive très faiblement. Pourquoi ? Parce que d'autres crises dans le monde sollicitent les bailleurs, l'Ukraine, Gaza et d'autres. Et du coup, effectivement, il n'y a pas grand-chose pour les pauvres déplacés du Kivu qui sont dans une situation épouvantable, avec une absence de règlement politique à vue humaine, en tout cas, entre le M23, le Rwanda, d'un côté, et puis le gouvernement congolais, et puis différentes milices de l'autre.
Yann, enfin, la situation politique à Dakar, avec une crise qui s'est ouverte il y a quelques semaines, et on sait maintenant qu'il y aura une élection présidentielle, normalement, le 24 mars prochain.
On sait qu'il y aura une élection présidentielle, et on sait que la liste des candidats ne bougera pas, ce qui veut dire que Karim Bouat ne pourra pas être candidat, ce qui veut dire que ça va compliquer probablement la situation pour le candidat du pouvoir, parce que les voix des anti-Macky Sall vont peut-être se concentrer sur un candidat, alors que si Karim Bouat avait été candidat, ça serait peut-être dispersé. Ce qui veut dire que cette fois, ça va être un scrutin probablement très ouvert, parce qu'effectivement, dans ce que j'ai compris, le candidat soutenu par Macky Sall, son ancien Premier ministre, n'a pas eu jusqu'à présent beaucoup de soutien dans l'opinion. On va voir ce que ça donnera le jour où les gens devront enfin choisir, en sachant quelle est la liste définitive des candidats.
Merci Yann Mince pour votre participation à cette émission hier et aujourd'hui. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovansky, bien sûr. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour le magazine Idées. Nous y rendrons donc hommage à Germaine Le Goff, une institutrice bretonne qui, dans les années 30, a créé la première école d'institutrices d'Afrique et a formé des générations d'enseignantes dont certaines sont devenues les premières députées et ministres après les indépendances. Je pense notamment à la Guinée-Conakry. Dès demain dimanche à 17h10 temps universel, 18h10 heure française avec notre invité François-Xavier Frelan. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.